Et bonjour les amis, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, aujourd'hui j'en ai gros sur la patate, on va pas traîner. On va exploser ce fils de pute de métro sexuel parisien de merde qui fait semblant d'être vivant. Retenez bien ce que je vous dis, il mime la vie, il fait semblant d'être vivant. Et je vais prouver pourquoi ce fils de pute fait semblant d'être vivant. Alors là, vous voyez pas exactement ce que je veux dire, vous avez du mal à vous le figurer, comment ça, quelqu'un ferait semblant d'être vivant, comment on peut faire semblant d'être vivant, comment on peut faire semblant de respirer, d'avoir un rythme cardiaque, mais je vais vous l'expliquer, je vais vous l'expliquer, vous savez que j'ai toujours une explication pour tout. Donc aujourd'hui, on va exploser... On va trianguler et bombarder, on va faire un bombing carpet, comme disent les Américains. On va faire un bombing carpet sur le faux vivant. Et j'en ai identifié une race très particulière, très symptomatique, qui est le faker, d'accord, le faiseur semblant. J'utilise un anglicisme parce que l'anglicisme est beaucoup plus court et beaucoup plus parlant, hein, c'est comme ça. Le faker de vie, le faker... d'épaisseur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui a de l'épaisseur ? Souvent, vous avez des existences, vous avez ce qu'on appelle des lifestyles, hein, encore en anglicisme, mais je suis obligé parce que c'est le plus parlant. Vous avez des modes de vie, vous avez des... Mais lifestyle est plus parlant encore. Vous avez des typologies, vous avez des sociologies qui vous amènent, en fait, à faire un certain nombre d'activités qui, au fil du temps, en fait, vous donnent de la personnalité, de la profondeur, vous donnent une expertise. Ça, c'est très important, on reviendra sur cette notion. Vous donne en réalité, de l'ampleur. Vous donne quelque chose qui fait que vous êtes quelqu'un d'intéressant, que vous êtes quelqu'un de vivant, qui a vécu et qui est intéressant à écouter. Et d'ailleurs, vous verrez que souvent, les gens qui ont une passion, une vraie, je vous dis bien une vraie, sont des gens profondément intéressants, même si c'est pas un domaine qui vous intéresse. Il y a toujours un moment où il va vous dire quelque chose d'intéressant. Alors, à moins que ce soit vraiment un domaine qui soit quelque chose de vraiment, vraiment étranger à vos centres d'intérêt, hein, ça peut arriver, mais la plupart des gens ont des domaines d'expertise, quand ils ont des domaines d'expertise réels, ils sont toujours intéressants. Moi, je compte pas le nombre de fois où je me baladais sur YouTube pour accéder à des contenus, et puis en fait, j'étais en train de travailler en même temps que j'écoutais une vidéo YouTube, la vidéo YouTube s'arrête, alors moi je me mets souvent des reportages de guerre parce que j'aime beaucoup, et souvent ça suit sur un reportage qui est pas forcément là-dessus, et tu vas tomber sur un mec qui t'explique le quantique, bon... Et alors, t'en as rien à foutre du quantique parce que t'es pas un matheux, t'as pas vraiment un grand pouvoir d'abstraction sur ces notions-là. Et puis finalement, t'as un mec passionnant qui va commencer à parler, qui s'y connaît. Et c'est son expertise et son expérience et sa vie dédiée à ce domaine qui va rendre la chose extrêmement intéressante. Il y a des gens comme ça qui sont extrêmement... Moi, la politique me fatigue. Je trouve ça fatigant, pardon. Le seul que j'arrive à écouter là-dessus et que je trouve pas fatigant parce que je trouve qu'il a des analyses extraordinaires, même si on n'est pas d'accord sur toute la République, tout ce truc-là, c'est Pierre-Yves Rougeron. Idriss Aberkane, il est extrêmement intéressant. Il y a des domaines sur lesquels il est vraiment passionnant, alors qu'en fait, c'est des domaines qui, moi, m'auraient pas intéressé de prime abord. Et in fine, vous l'écoutez, vous êtes complètement transporté. Il y a plein de personnages comme ça, vous voyez, qui sont peut-être pas des gens vers qui vous seriez allé de prime abord parce que c'est pas vos domaines. Et puis finalement, vous les écoutez au début par accident. Et à la fin, en fait, vous allez aller chercher leur contenu parce que c'est extrêmement intéressant. J'aurais pu en citer d'autres, hein, y a pas de problème. Mais voilà, c'est les deux qui me viennent à l'esprit parce que c'est vrai que je déteste la politique. Je déteste entendre parler de politique. Ça a pas toujours été comme ça, hein, mais c'est comme ça depuis un certain temps. Et c'est vrai que quand je tombe sur une analyse de Pierre-Yves Rougeron, je me régale. Et pareil pour Idriss Aberkane. Sur plein d'autres choses. Donc voilà, pareil pour l'économie. Vous voyez, moi, je déteste entendre parler d'économie. Et quand je tombe, par exemple, sur des interventions de Charles Gave sur cette émission avec Sky, ça me reviendra, Thinkerview. Les interventions de Charles Gave sur Thinkerview sur l'économie, elles sont proprement passionnantes, alors que je suis une bille en économie et que c'est un domaine que je déteste. Donc, vous voyez, des fois, l'épaisseur, l'expérience, l'envergure qu'on a sur certains domaines rend ce domaine intelligible et intéressant, les deux à la fois. Et ça, ça demande du temps. En fait, c'est toujours pareil. C'est qu'on les gens intéressants ont passé du temps, d'accord. Ils ont passé du temps à s'intéresser à quelque chose. Et il y a une espèce d'échange entre ce quelque chose et eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont donné d'eux-mêmes à ce quelque chose, et ce quelque chose qui est passionnant, finalement, c'est donné à eux. Et vous avez une interpénétration. C'est un peu compliqué ce que je veux dire. Hein. Je suis pas en train de parler de rapport sexuel, mais il y a une interpénétration qui fait que vous avez des gens qui ont beaucoup d'épaisseur. Je le répète. Et vous avez, excusez-moi, j'ai mis 5 minutes à vous faire l'introduction, et vous avez donc le type qui prend des chemins de traverse. Vous avez le petit tricheur. Vous connaissez le petit tricheur? C'est le mec qui a effleuré un domaine du doigt et qui en a appris à la va-vite tous les codes et qui donc répète des choses. Il n'amène rien, en fait. Il n'amène aucune dimension à ce qu'il a capté. Il a fait un très grand travail de synthèse en captant les principales, disons, notions. Et après, il brode par-dessus. Il brode par-dessus. Et je suis désolé, mais la ville de Paris et le centre des métropoles est rempli de fils de pute qui fake des expertises. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs ont 25 ans et ils ont monté un concept bar autour du... Tu vois, de la sélection des terroirs de café, tu vois. Vous voyez ce genre de mecs, ils ont des bonnets repliés, là, au-dessus des oreilles, un peu à la El Ryan. Ils ont des ourlets de fils de pute, ils portent des Converse. Bon, peut-être que c'est plus ça la mode. Mais ils ont des, vous savez, ils ont un code vestimentaire, un petit peu de baroudeur, alors qu'ils baroudent rien du tout. Ils ne baroudent rien du tout. Ils n'ont jamais dormi dehors ou au pied d'une gare, comme ils voudraient essayer de le transmettre avec leurs habits, qui sont les codes du gars aux États-Unis qui monte dans un train. Vous les avez vus, ces films où les mecs montent dans un train, ils parlent avec un mec là dans les wagons qui sont ouverts, les wagons de marchandises. Il fait San Francisco, Los Angeles sur un train de marchandises, tu vois. Il a de l'épaisseur, il écrit des poèmes au clair de lune. Il s'arrête dans des diners pour dépenser les quelques dollars qu'il a gagnés en faisant des travaux manuels. Mes couilles. Ce sont des mecs qui sont financés par papa et maman ou qui touchent des RSA de fils de pute et qui n'ont absolument aucune épaisseur, mais il se trouve que le fait de n'avoir aucune épaisseur est un grand vide dans leur vie. Ils sentent bien qu'ils sont illégitimes en tout, ils sentent bien que ce sont des merdes, et là il y a le moment où ils se disent, putain, je peux pas finir, parce qu'ils avancent en âge, hein. Et comme ils ont toujours été comme des espèces de coqs en pâte dans leur centre-ville de fils de pute, ils n'ont absolument aucune rugosité, ils regardent la série 1 de Yellowstone, ils se disent, putain, il y a Rip qui met des taloches à des cocaïnomanes et qui les marque au fer rouge. Et moi, je suis un fils de pute qui a fait des soirées électro à Paris, qui allait en concert à Danakil. En 2022, j'étais un reggae man. En 2023, j'étais un bourgeois bohème. En 2024, je suis un skater baroudeur. Que serais-je en 2025? Je ne le sais pas encore. Ça va dépendre des films que je regarde et des séries que j'aime bien. Putain, mais ils sont horribles. Ils sont horribles. Donc, ils sont ballottés comme ça par la mode. Ils sont ballottés par le vent. Un coup, c'est, comme je vous disais, voilà, le skater baroudeur en Carhartt. Il faut que je trouve un Carhartt un peu usé, là, voilà, pour que ça soit pas trop neuf, pour qu'on sente que j'ai traîné dehors. Bon, la seule chose où t'as traîné, fils de pute, hein, c'est dans un skatepark, là, de la métropole parisienne, fils de pute. Hein. T'as jamais fait de voyage en train de marchandises et tu veux nous vendre ça, t'es abominable. Donc, il est là, il est dans les friperies, il met des petites lunettes rondes, il a un peu ce style-là, tu vois, ouais, les Doc Martens, hein, regarde ce que j'ai topé, là. Ah, j'ai topé des Doc Martens des années 90, putain, ils ont une patine de malade. Fils de pute, j'ai envie de te taper dans la nuque avec un manche de pioche. J'ai envie de te taper dans le cervelet avec des morceaux de bois qui ont été durcis à la flamme comme putain néolithique, en fait, tu vois. J'ai pas envie de te taper avec un truc tranchant. Je veux que tu sentes le choc de la commotion. Tu sais, quand tu vois le flash blanc. J'ai envie que ton cerveau, je tape tellement fort dans ta tête que ton cerveau grossisse comme ça, et que ça te fasse une putain d'attaque cérébrale parce que ta boîte crânienne a comprimé ton cerveau, tu vois. Et tu meurs parce que t'as trop de pression de sanguine dans le cerveau, tu vois. J'ai envie d'un truc comme ça. Non, je rigole. Ne m'envoyez pas la BRDP, je rigole. C'était pour de rire, comme on disait quand on était gosse. Non, c'est pour rigoler. Oh putain, je crois que les nazis auraient dû faire ça, tu sais, à la fin de leur crime. Non, c'est pour de rire. Comme ça, ils sont pas convoqués à Nuremberg. Non, c'est pour rire. C'est pour rire, on a fait ça pour rire. Ah ben dis donc, c'était vachement drôle. Non, je retire cette blague, voilà. Alors, donc, le faker de vie, le faker d'expérience, finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il se lève un matin, il boit un café, il réfléchit comme ça. Il réfléchit à quel domaine, dans quel domaine comme ça je pourrais arriver et faire semblant, je suis une machine dans ce domaine. Alors déjà, il y a le concept store, tu vois, pour faire des concept burgers. Donc là, en général, il y a la poussée de la barbe, la petite couette à l'arrière de la tête, l'anneau écarteur, le tablier et les gants noirs. Bon, ça, ça a été exploré dans un million de blogs. Donc là, j'arrive un peu après le après la bataille. Vous savez, cette espèce de faiseur de burgers qui s'est déguisé en bûcheron canadien. Vous voyez ce genre de mec là dans les burgers hors de prix avec des gants noirs. Voilà. Je t'ai mis un chutney de courge. Ta gueule. Arrête. Ta gueule maintenant. Voilà. Ta gueule. Tu n'as absolument aucune personnalité, fils de pute. Voilà. Donc ne commence pas à me dire que t'es passionné par les burgers. C'est pas une passion déjà le burger. Arrête. Je suis allé à la convention de burgers du Tennessee à Tallahassee, fils de pute. Tu vois, on est parti avec Max, ouais, parce qu'il s'appelle comme ça ses potes. On est parti avec Seb, Tom et Max à Tallahassee. On est allé à la convention nationale du burger, tiens. On a appris à faire des burgers, tiens. C'était 3 jours géniaux. On a appris trop de trucs. On a parlé avec trop de gens. Tu sais, il y a trop à chaque fois. On a fait trop de trucs. On a été dans des hôtels trop bien. On a trop parlé de burgers, tu vois, sur la viande effilochée, les différents styles de burgers. Putain, c'était trop intéressant. On a appris trop de trucs, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je rentre à Paris et que je fasse un concept store de burgers, tu vois. Il faut absolument que les gens connaissent le burger du Tennessee, tu vois, parce qu'il est au taquet différent. Non, parce que c'est un bordelais en général. Donc, il est gavé différent du burger de l'Arizona, tu vois. C'est vraiment deux écoles de burgers complètement différentes. Et j'ai vraiment envie, tu vois, un peu de promouvoir l'école du burger, mais tu vois, la française, en rajoutant un petit peu notre touche à nous, tu vois. Est-ce que vous pouvez me fusiller cette merde? Collez-moi ça au mur! Putain! Qu'est-ce que c'est infernal! Qu'est-ce que c'est infernal. Et ils s'écoutent parler et ça leur fait du bien parce qu'en fait, ils n'ont tellement rien vécu, ces fils de pute. C'est tellement des chats d'appartement qui se sont fait faire des Nesquik sans grumeaux par leur daronne. Sans grumeaux, c'est-à-dire que la daronne a mis le lait, un peu de Nesquik. Ensuite, elle a remué quand il y avait un peu de lait. Elle a pas mis le Nesquik dans le bol avant de mettre le lait. Parce que quand tu fais ça, il y a le Nesquik du fond qui s'accroche au bol, tu vois, et à la fin t'as des espèces de taches marron de Nesquik qui se mélangent avec le lait. Non, sa daronne faisait chauffer le lait, elle mettait un peu dans le fond du bol, elle mettait 2 cuillerées de Nesquik, elle remuait, et une fois qu'elle avait une pâte bien homogène qui accrochait pas sur le bol, là elle versait le reste du lait en remuant. Fils de pute, ta daronne t'a remué ton Nesquik. Pourquoi tu parles d'école de burger? Pourquoi tu fais ça? Alors que ta daronne t'a remué ton Nesquik. Moi j'avais la fausse marque là, du faux Benko avec un petit cheval, pour faire croire que c'est du poulain alors que c'est pas du poulain. Ça s'appelait pouliche quand. On avait du chocolat pouliche, fils de pute. Et ça accroché au fond du bol quand. Et donc ces mecs là, alors il y a le burger et il y a le mec qui fait un concept store de café, tu vois, je suis torréfacteur, tu vois. Parce qu'en fait, c'est l'imaginaire de l'Amérique du Sud, parce que il y a le fils de pute de centre-ville parisien qui a un imaginaire burger, tu vois. Lui, il se voit en irlando-américain de Philadelphie qui monte un concept store de burger parce qu'en fait, il a vu des films. Si vous voulez, ces mecs-là ont vu des films et ils veulent incarner tel mec de tel film, en fait. Tu vois, voilà. Donc, il veut être... quand The Town est sorti, il voulait être un Irlandais qui fait un peu de boxe et qui fait des burgers après. Donc, il s'est inscrit à la boxe. Il s'est fait fracasser le nez par Bakary. Et il est rentré très vite chez lui. Et il s'est concentré sur les burgers uniquement. Tu vois. Ou alors, il est allé dans un club de bobo où les sparring sont toujours légers. Allez-vous toucher les épaules. Bon, bref. Et donc, du coup, il a vu ce film-là. Donc, il se voit comme ça, en irlando-américain, qui fait des burgers. Et après, il y a le mec qui a vu un reportage sur Jacques Vabre, torréfacteur, et il a vu un mec comme ça avec une chemise un peu beige, un Panama en paille tressée, et il s'est dit, oh putain, je suis trop ce mec, oh, je suis ça, je suis ce mec là. Et là, il commence à apprendre le vocabulaire. Alors là, tu vois, il y a une blinde Nicaragua, mais qu'on a torréfié en double presse. Ta gueule, fils de pute, arrête de mentir, arrête, c'est des trucs que t'as vu sur Wikipédia, fils de pute, arrête de faire comme si tu maîtrisais ça, arrête, putain, arrête, tu te mens à toi-même, tu nous mens, t'essaies de te donner une épaisseur que tu n'as pas, t'es insupportable. Pourquoi tu fais semblant d'être vivant? Pourquoi tu fais semblant d'être vivant? D'avoir de la testo, d'avoir quelque chose à raconter? T'as rien à raconter, rien, rien du tout, parce qu'en fait ta vie était lisse. T'as fait des soirées où vous avez la fonce dalle, là, t'as fumé des chichons, il y avait des piscines en été, vous avez joué aux dernières consoles, vous couchiez tous dans le même lit là, avec des coussins pour fumer des zdar, pendant que vos darons, ils avaient de la bienveillance avec ça. C'est énervant que vous preniez les codes du prolétariat pour faire vanne, en fait, c'est infernal. Vous prenez les codes des mecs qui en ont chié et après vous faites des phrases avec des oh, c'est une double presse avec du café bolivien, si tu veux. Fils de pute, j'ai envie de te remplir la gueule de patates. J'ai envie de te coincer la tête dans un angle pour que tu puisses pas esquiver. Et de te rentrer des gauches droites avec des pivots de la hanche, si tu veux. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune absorption dans tes cervicales. S'il faut vraiment que chaque coup pousse ton crâne contre le mur. Tu vois, voilà. C'est ça que ça me génère. Quand je vois ta gueule avec ton gros nez, là, ta boucle d'oreille de fils de pute et ton corps de lâche qui a jamais fait de truc physique, hein, et que tu commences à me parler de blindes de Nicaragua et de plantations en Bolivie, tu vois, que ce soit pour le cigare ou pour le café, j'ai envie de prendre ta tête de parisien de merde et de la foutre dans un angle, mais un angle aigu, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il y a une grosse partie de ton crâne qui soit dans l'angle, tu vois. Et là, de balancer une patate, mais de toutes mes forces dans ta fif, pour que ton nez éclate et que tu prennes une commotion cérébrale sur le coup, en fait. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire ça. D'où tellement que ça m'énerve que tu fasses vanne, en fait. Voilà. Et après, il y a tout le décorum. C'est-à-dire que le mec, il commence à te parler d'une blinde Nicaragua. Il a un collier avec du lapis lazuli. Pour faire vanne qu'il a vécu 5 mois avec une tribu de natifs américains en Bolivie, fils de pute, espèce d'enculé de blanc de centre-ville. J'ai le droit de dire enculé de blanc parce que je suis blanc, donc j'ai le droit de le dire, espèce d'enculé de blanc de centre-ville de merde, fils de pute. Il y a le collier en lapis lazuli pour faire vanne que t'es Indiana Jones du café et que t'as passé 6 mois dans la jungle du Pérou et que ça a considérablement augmenté tes 5 sens. Non, ça c'est le générique du Sentinelle. Tududu. Les mois qu'ont passé le inspecteur Jim Ellison dans la jungle du Pérou ont considérablement augmenté ses 5 sens. La trilogie du samedi, j'espère que vous avez la ref. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez forcément la ref de la trilogie du samedi. On se régalait. Il y avait l'inspecteur Jim Ellison avec l'autre PD, là, comment il s'appelait, là, celui qui était anthropologue. Il faisait que lui couper la parole pour lui dire que oui, c'est intéressant la sociologie, mais il va falloir tuer tel mec et tel autre mec. Je sais plus comment il s'appelait, il avait filé un petit surnom dégueulasse. C'était les gars de la série de Sentinelle. Bon, bref. Donc, je crois que vous avez à peu près cerné ce personnage. C'est le fils de pute qui fake, en fait. Il fake le parcours. Il fake la vie. Il fake l'expérience, vous voyez? Et en fait, il prend que des raccourcis. Au lieu d'aller vraiment faire son voyage en Amérique du Sud, au lieu de passer, effectivement, une dizaine d'années à faire des sparring, au lieu de s'intéresser au taillage de pierre et d'être un vrai taillage de pierre, au lieu d'être un vrai métallier qui est passé par plusieurs étapes pour comprendre ce que c'est que la métallurgie, en fait, il prend des raccourcis. Il regarde des putains de tutos YouTube, fils de pute, tu es un enculé de regardeur de tuto YouTube. Tu es un enculé de regardeur de tuto YouTube. Et tu emmagasines des informations et tu nous le retranscris, tu nous les recraches. Mais ça va durer 1 an et demi. Parce qu'en fait, quand on incarne quelque chose qu'on n'est pas censé incarner, on se lasse très vite. Parce qu'en fait, on habite un personnage, c'est pas nous. C'est pas nous. Et il y a très rarement des mecs qui ont la force de continuer pour devenir vraiment des experts dans le domaine qui prétendent être des experts. Donc, comme il y a l'argent de papa et maman derrière, ils montent des stores, ça dure un an et demi, après ils se reconvertissent. Alors, ils étaient torréfacteurs de 2019 à 2019 et demi. Après, ils deviennent tailleurs de pierre, donc ils font un stage, ça dure un mois et demi, ils se rendent compte qu'ils transpirent et que ça les fatigue beaucoup, donc ils changent. Donc après, ils deviennent, si tu veux, ils deviennent pratiquants de MMA Underground, tu vois. Ils filment une séance de grappling dans un garage, tout d'un coup, c'est pas Street Fighter, qu'est-ce que je raconte? C'est Fight Club, tu vois. C'est tout d'un coup, c'est Tyler Durden, tu vois. Donc en fait, ils rêvent d'avoir un petit cocard et puis de mettre les habits de Brad Pitt dans Fight Club, en fait. Tu vois, je me sens vivre là, tu vois. Je suis allé faire un pauvre sparring avec des mecs de 70 kilos dans une cave, tu vois, qui ont aucun niveau. À un moment, on a cogné nos arcades les uns contre les autres. J'ai une petite rougeur sous l'œil là, sous l'œil. Et je vais faire 25 photos pour vous les montrer sur YouTube. Vous les connaissez, ces mecs-là? Il y a deux races de mecs hein, au sparring. Hein. Il y a les mecs qui font des sparring quand ils prennent le bus, ils ont mal à la tête, ils vont regarder une série pour que le mal à la tête y passe, tu vois. Et puis t'as le mec qui fait 25 photos avec 18 ancles. Il te met un outfit de boxeur, tu vois. Regardez. Oh, je suis allé faire un sparring, bordel. Regardez la médaille que j'ai ramenée à la maison. Oh, regardez. Oh, je me suis fait un cocard, putain. Oh, j'attendais ça depuis 20 ans. Oh, ça fait 20 ans que ma daronne vient me border. Ça fait 20 ans qu'elle me remue mon petit Nesquik dans mon bol de lâche. Ça fait 20 ans que je prie le ciel. Non, parce que je suis pas du tout chrétien. Ça fait 20 ans que j'espère que je vais avoir un petit cocard. Et là, ça y est, j'ai fait un sparring avec des mecs qui ont pas de niveau. Et en fait, à un moment, on a fait un faux geste et comme on s'est battu en jean, j'ai frotté là, le coin de mon œil contre sa ceinture. Et ça y est, j'ai une rougeur sur le visage. Putain, merci, mon Dieu, merci. Regardez, je peux l'exposer sur Facebook. Oh, j'ai fait 8 photos. Je les ai mis texturées là. Je suis allé dans les paramètres de la photo. J'ai monté les contrastes, j'ai augmenté les couleurs, j'ai mis du gris. Ah ouais, là c'est dégueulasse. Oh, c'est génial, on est sous le néon industriel là. On est sous le néon industriel, tu vois. C'est la bagarre, ça parle trop de ma vie ça. Oh putain, ça parle trop de ma vie. Oh, c'est moi, regardez cette photo, c'est moi, c'est ma vie. Regardez, j'ai vécu 25 ans dans tel arrondissement parisien de salope. Et tout d'un coup, je me suis fait un cocard et je l'ai pris en photo sous 25 angles. Regardez mon MySpace, regardez mon Instagram, putain, regardez. Oh, j'ai fait 26 photos avec ce petit cocard là, regardez, c'est trop moi là. Oh putain, c'est trop moi. Oh, regardez les meufs. Oh, regardez, j'ai de l'épaisseur. Hein. Oh, tu la sens, mon épaisseur, regarde. Fils de pute, fils de pute. Tu vois que j'ai de l'épaisseur. Vous savez, ça, c'est le mec. À la fin, il confond tout, le gonze. Il confond tout. C'est-à-dire qu'il y a du sparring, il y a de la petite moustache, il y a de l'œil. Souvent, ils ont des têtes de fouille en plus. Ils ont des gueules qui vont pas avec les univers qu'ils essaient d'incarner, c'est infernal. Et on a beaucoup de mal à les respecter, tu sais, ils t'expliquent un truc, je sais pas. Ils se sont mis à la forge, tu vois, parce qu'ils ont vu un film qui parlait des forgerons. Ils se sont mis à être torréfacteurs parce qu'ils regardaient, je sais pas quel film ou quel documentaire. Ah putain, trop bien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas les gueules qui vont avec, parce qu'en fait, je vous explique, il y a un truc qui se passe avec les mecs comme ça, c'est qu'ils ont des visages très très fins en général. Alors d'où vient le visage très fin? Au Moyen-Âge, quand une meuf était bonne, en fait, elle avait de l'ascension sociale. Parce que t'avais, si tu veux, à un moment, un mec riche qui allait la cartonner. Donc en fait, il la sortait de la misère. T'avais un seigneur, mais comme aujourd'hui en fait, hein, c'est-à-dire que les hommes qui ont de l'argent, s'ils trouvent une vendeuse au McDonald's qui est super jolie, il va la faire croquer, voilà. En échange de pénétration régulière, il va en faire sa princesse, si vous voulez. Il va même lui faire des gosses, il va la respecter, il va la marier, voilà. Une femme, si elle gagne suffisamment d'argent, pas toutes les femmes évidemment, mais 90% des femmes, si elle gagne suffisamment d'argent, elle ne va pas aller vers un mec qui est vendeur à McDonald's ou qui est boueur. Ça n'existe pas, si vous voulez. Ça existe, il y a certaines femmes qui ont cette grandeur d'âme, mais souvent elles sont un peu garçons manqués, d'aller se mettre avec un mec qui a moins d'argent qu'elle, mais c'est très 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 rare. Une femme qui a de l'argent, elle va chercher un gars qui a de l'argent. Alors qu'un gars qui a de l'argent, il va accepter de prendre une femme qui en a pas trop. Et en fait, au Moyen-Âge, c'était la même chose, hein, faut pas croire. Hein. Si tu veux, une reine ou une noble ou une fille de paysan très riche, allait pas prendre un gars, un cerf. elle allait prendre soit un mec de sa catégorie, soit au-dessus, si vous voulez. Voilà, c'est là, c'est le truc. Et donc, depuis le Moyen-Âge, la beauté, donc les traits symétriques, sont mis en valeur pour grimper dans l'échelle sociale. Donc, vous avez à chaque fois un mec riche qui lui-même peut être le fruit d'un mariage entre une femme très belle et un homme moyen. Mais si vous voulez, avec les générations, ça fait des traits de plus en plus fins. C'est pour ça que il y a beaucoup de Parisiens ou de dans les milieux bourgeois, de gens qui ont les traits fins, parce qu'en fait, ça fait des générations que grâce à l'argent... Alors, je vous parle sur les très très vieilles familles bourgeoises ou les très très vieilles familles nobles. C'est pour ça aussi que ça fait des dégénérés, parce qu'en fait, il y a tellement de caractères féminins qui ont été mis en valeur, de symétrie féminine qui ont été mis en valeur, que souvent, ça finit sur des mecs très très frêles et qui ont plus du tout la trempe de leurs ancêtres nobles. Je sais pas pour tous les nobles, attention, il y a des noblesses qui sont restées des noblesses de terroir. Je vous parle de la noblesse qui s'est exportée à Paris. C'est souvent des gens qui ont beaucoup qui ont beaucoup mis en valeur la beauté, mais c'est normal, hein, quand on a de l'argent, on veut s'offrir une femme très belle. Mais si on le fait trop de fois, si on le fait sur trop de générations, vous avez des enfants qui deviennent trop fins. Il n'y a plus assez de laideur, mais qui va avec la rusticité, qui va avec, vous voyez ce que je veux dire, le côté un peu, vous le voyez beaucoup dans le film, Le Dernier Duel, où vous avez une femme qui est très très jolie et qui va être un peu prise sous la poigne d'un chevalier qui est très rustre et qui est pas très très beau. Enfin, ils l'ont grimé, je dis pas que Matt Damon soit un mec laid, hein, je dis pas ça, mais Matt Damon... Dans le film, ils en font un mec rustique, ils l'ont maquillé pour en faire un peu un mec dégueu, quoi. Mais lui, il est viril à souhait, il va faire la guerre pour le roi de France, il va s'y filer contre les Anglais. Enfin, le film est génial, hein. Alors, il a un propos très féministe par rapport au bouquin, je fais juste un aparté. Mais le film est génial, je vous conseille vraiment de le regarder, c'est vraiment la chevalerie normande. Vous voyez le caractère rustique des Normands et tout, ça régale trop, quoi. C'est vraiment un film qui ne trahit pas l'esprit normand, je trouve. Qui fait beaucoup hommage à ça. Des mecs un peu rustiques, avec un très grand cœur, mais qui sont pas des grands parleurs, qui sont pas des grands stratèges, qui sont des types avec beaucoup de rusticité, et j'ai adoré ce film pour ce côté-là, pour montrer vraiment le caractère chevaleresque normand et tout, j'ai adoré. Mais bon, après, voilà, il y a un petit propos féministe un peu pénible, je vous raconte pas la fin du film, mais elle est géniale. Moi, le film m'a régalé. Bon, même s'il est très, par certains aspects, très moderniste et très anti-médiéval par certains aspects, mais bon, c'est pas grave, vous gardez ça dans un coin de votre cerveau. Moi, je l'ai regardé en me rappelant que c'est un film hollywoodien, donc du coup, il y aura de l'anti-médiéval et du féminisme. Si vous gardez ça en tête, vous allez quand même capter des trucs dedans qui vont vous régaler. Et bon, bref. Et dans ce film, vous voyez une femme très délicate, très belle, qui se marie avec un rustre. Et ça se vit sur des générations et des générations et des générations. Et à la fin, vous avez des descendants qui sont tous homosexuels. Parce qu'en fait, les caractères féminins ont tellement été sélectionnés que vous avez des mecs qui naissent avec des têtes de femmes, si vous voulez. Moi, j'avais été très frappé dans certaines réunions de droite où il y avait un peu des mecs, des descendants de la noblesse. Je vous parle pas de la noblesse, encore une fois, de terroir, la noblesse territoriale. Vous avez, par exemple, mon ami Antoine de la Gauzie. Bon, vous le voyez, il a pas bougé d'un pet depuis que son premier ancêtre franc est venu mettre des claques dans le Gers, voyez. Donc ça régale. Joueur de rugby, compagnie, j'ai déjà brossé un portrait de ce gars-là. Mais voyez, il est typiquement le descendant d'une noblesse de terroir qui est restée une noblesse qui a souvent fait la guerre. D'accord, même sous Louis XIV. Alors que la noblesse parisienne, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont allés traîner à Versailles, qui sont devenus un peu des courtisans, qui ont oublié leur métier et leur vocation guerrière, hein, puisque le noble avait ses privilèges en échange d'être un guerrier. Et Louis XIV, en fait, a perverti la noblesse en la faisant venir à la cour de Versailles et en a fait des tarlouses. Il en a fait des grosses merdes. Donc, encore une fois, le mot tarlouse est utilisé non pas pour une désignation sexuelle, mais pour une désignation... c'est un vocable, hein. Voilà, ce n'est pas un mot homophobe. Il s'agit pas de parler d'orientation sexuelle. Il s'agit d'utiliser ce mot-là dans un vocable, hein. Voilà. Bon. Je le dis parce que j'en ai un peu marre d'aller me justifier à la BRDP. J'en suis quand même, là, faut que vous compreniez, j'en suis à 4 convocations en 2 mois, là. Faut comprendre. Donc, voilà. C'est pour ça que j'en ai un peu marre de finir par devoir payer des avocats quand le procureur décide d'instruire pour des balivernes. Donc, je me couvre maintenant. Voilà. Et en plus, c'est vrai, c'est même pas la question de se couvrir, vous le savez, je vais pas revenir dessus. Bon, bref. Donc, on a une noblesse qui est devenue très tarlousesque et qui, en fait, était plus du tout vouée à la guerre. Et donc, ce qui a été mis en avant ensuite, dans la deuxième partie de l'évolution de la noblesse, c'était plutôt la capacité à être bon en politique, à être un fin stratège. En fait, c'est les caractéristiques de rat. On a laissé le truc très bourrin du Moyen-Âge, très guerrier, pour favoriser des caractéristiques. Les hommes devaient être très coquets, très portés sur la stratégie politique, et les femmes devaient être très belles, hein, ce qui est leur vocation. Et du coup, ça a donné, ça, c'est comme les éleveurs de chevaux, ils vous en parleront, hein. Les êtres humains ne dérogent pas la règle, hein. Quand vous renforcez des caractéristiques sur 3-4 générations, vous obtenez un cheval qui va avoir telle dimension, telle caractéristique physique. Chez l'être humain, ça peut être des caractéristiques mentales ou des caractéristiques physiques. Voilà. Donc, quand vous avez une très faible intervention d'une génétique liée aux aptitudes guerrières, et que vous avez une surreprésentation des génétiques pour des aptitudes de filouterie politique, d'être un bon courtisan, d'être une sale merde. D'ailleurs, la, c'est terrible, hein, parce que avec cette noblesse qui s'est complètement parjurée, vous avez obtenu la noblesse parisienne qui étaient tous des francs-maçons. Et c'est eux qui ont précipité, entre autres, hein, c'est eux qui ont participé à la chute du roi de France, hein, et qui ont participé à la révolution française, hein, faut comprendre, hein, la révolution française, c'est en partie parce que la noblesse était complètement pervertie. Donc vous avez aujourd'hui dans les réunions, c'est pour ça que je n'en fais plus, hein, dans les réunions de droite, vous avez comme ça cette bourgeoisie de droite, hein, cette noblesse parisienne, hein, toujours. Je vous parle pas forcément des zones autour de Paris, hein. Quand je dis Paris, je parle vraiment Paris intramuros ou certains Versaillais, parce qu'il y a de tout. Qui sont devenus des, par rapport à leurs ancêtres, des fiottes, vous voyez. Et j'ai vu des mecs en soirée à droite dire « Ah oui, moi, mon ancêtre, oui, mais ton ancêtre, je veux bien, mais toi, c'est quand la dernière fois que t'as fait un sparring, en fait ?» Parce que bon, on peut plus faire la guerre, mais il y a quand même des moyens de la faire sans la faire, tu vois. Tu peux aller te la filer au rugby, tu peux aller te la filer dans des trucs physiques, tu peux aller te la filer... Et il n'y a plus du tout ça. Je vous rappelle que les nobles, au Moyen-Âge, passaient leur temps, enfin... La chevalerie normande, la chevalerie occitane, la chevalerie picarde, la chevalerie franque en général, hein, la chevalerie savoyarde au Moyen-Âge, c'était l'emploi du temps, c'était se foutre sur le chignon 75% du temps, en fait. Non, j'exagère, mais la moitié de leur formation était dédiée aux arts de la guerre. Le cheval, l'épée, la lance, être un bon lancier, être un bon escrimeur, travailler sa force. Vous savez que parmi les exercices de chevalerie, il y avait se caler devant un tronc d'arbre avec une épée et tailler des troncs d'arbre et après... Les mecs, ils faisaient ça, ils spammaient le bouton A de la console Xbox, tu vois, sauf que c'était eux le personnage principal, si tu veux. Donc, faut quand même comprendre qu'un chevalerie, c'est ça au début. Hein. C'est des mecs qui parlent occitan, ils vont choisir un arbre dans la forêt et ils lui mettent des coups d'épée, en fait. Où est-ce qu'on est là, tu vois, au niveau PD de Jouvenceau qui fait des tours de chapeau pour dire bonjour à Versailles, tu vois. C'est quelle noblesse, ça, tu vois. Quand t'as un mec qui s'appelle Beignat, tu vois, qui vient de Pau, et en fait, c'est la noblesse, c'est la noblesse du Périgord, du Gers, paloise, basque, tu vois. Le mec qui se met devant un arbre, tu vois, ou normande, ou du perche, tu vois, un gros chevalier normand du perche. Le mec se cale devant un arbre et il y a des gros coups d'épée dedans, en fait. Au niveau de l'actide, qu'est-ce qui se passe? C'est quel lobe frontal qui est activé là, tu vois? Ça, je veux que vous le compreniez aussi. C'est en fait, vos putains d'activités font activer ou pas certains de vos lobes frontaux. Tu vois, il y a une époque de l'histoire de France où il y avait des gonzes dont la partie du lobe frontal qui était activée, elle l'était parce qu'il y avait des gros coups d'épée dans des troncs d'armes. Mais pas 5 minutes pour rigoler. Pas 5 minutes pour rigoler. Pendant une heure. C'est-à-dire que le mec se levait, il prenait une écuelle en bois, il prenait un coup d'eau, con. Et puis après, il mettait une espèce d'habit, là, en laine qui gratte, tu vois. Il sortait dehors, il faisait 4 degrés, il attrapait son épée, il se mettait devant un arbre et... Et là, t'as l'épée qui commence à faire de l'écorce. Est-ce que tu crois que le mec, il active sa testostérone? Est-ce que tu crois que le mec, quand il sort, il va te sortir de blindes Nicaragua, de pédé, quand. Est-ce que quand il a fini de tailler un arbre pendant toute une matinée, tu vois, parce qu'en plus c'est un arbre médiéval, c'est pas un arbre de pédé qui a été planté par Ikea pour faire un meuble, c'est un arbre qui a été planté par les Celtes il y a 4000 ans, si tu veux. Le truc à l'époque des païens, c'était une divinité, tu vois. Ben l'autre, il se cale devant le gros chevalier normand, là, ou le gros chevalier occitan ou picard, il se cale devant et il met des coups d'épée dans l'arbre, quand. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te faisait des mecs rudes? Est-ce que ça mouchait rouge, quand? Est-ce que ça mouchait rouge? Est-ce que ça te parlait de d'école du burger de Talassi, de PD, quand, putain? Non! Non, là, on était concentré, quand. Là, la franc-maçonnerie, elle avait pas de marge de manœuvre, tu vois. Là, les courtisans, ils avaient pas de marge de manœuvre pour vendre la France à la franc-maçonnerie, tu vois. Là, c'était, là, la société secrète, si tu veux, c'était l'Opus Dei, tu vois. C'était pas, le Grand Orient de France, tu vois. On était sur autre chose, en fait. C'était pas des mecs qui se baladent avec une épée et qui bouffent du fœtus, tu vois, qui font des soupes de fœtus, tu vois. Là, c'était, oh, père, j'ai passé la matinée à mettre des coups d'épée dans l'arbre. Que puis-je faire, pour, quoi, tu n'as pas fait de cheval? Retourne, séant dehors et monte un. Monte un percheron et entraîne-toi. Et donc une fois que tout ça était fini, tu vois, les gonzes, ils bouffaient un ragoût. Après, ils allaient digérer, ils lâchaient une caisse. Hein. Et puis l'après-midi, c'était apprendre à parler latin et comprendre comment on fait un siège, tu vois. Et puis le surlendemain, effectivement, t'avais une certaine partie de ton temps qui était donc dédiée à apprendre la chasse, à avoir un précepteur qui venait te t'instruire, t'apprendre à parler latin, t'instruire en fait, tout simplement, parce que c'était important d'être un homme instruit et avisé. Mais le reste du temps, tu faisais quand même des trucs très lourds. Alors il y avait des cours de danse comme ça parce qu'il fallait à un moment être capable d'être un gentilhomme, et une fois que t'avais décapité suffisamment de cathares, tu pouvais rentrer à la cour de Guy Desbarres et puis faire une petite danse avec des flexions de genoux, tu vois. Mais ça régale. Il y a un côté folklore qui est génial. Les mecs partaient à la croisade, ils font la plus grosse ratonnade du siècle, ils rentrent, alors 1, 2 et 3 et je me tourne et bourrade, je lève les bras, je m'incline, je me redresse et boum boum boum. C'est-à-dire qu'en fait, les gonzes, ils taillaient des arbres avec leurs épées, et après, ils allaient dans des salles où t'avais des professeurs de danse avec des fifs de l'espace, qui avaient des espèces de longs bâtons et qui tapaient sur le sol comme ça. Et je fais un pas, et 1, 2, 3, et je me tourne, levé de bras, je claque une bourrade, et je me retourne, et 1, 2, 3. Une fois que Messire a fait son demi-tour, il peut s'incliner, se redresser de la plus gracieuse des manières et ôter son couvre-chef pour saluer l'assemblée. Tu vois, c'était ça. Mais le reste du temps, tu défonçais des arbres avec des épées, en fait. Tu vois, ça déforestait pour s'entraîner, si tu veux. Tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, la noblesse avait le manche. Alors pourquoi je vous ai fait tout ce laïus? Parce qu'il faut... Excusez-moi, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a un moment où ça a été fini, ça. D'accord? Les frontières étaient gardées, les guerres en Italie étaient faites par la noblesse gasconne, tu vois, sous François Ier, et on a commencé à avoir des jouvenceaux qui sont allés à Paris. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu des mariages, à partir de Louis XIV et plus tard, hein, pendant l'industrialisation, hein, époque des Lumières, puis ensuite l'industrialisation. Il y a eu comme ça des mariages entre nobles et entre bourgeois, qui eux-mêmes avaient déjà fait des mariages avec des très très belles femmes. Donc, on sélectionne les plus belles femmes, et à la fin, les mecs ont des gueules de femmes. À la fin, ils ont des gueules de femmes, en fait. Vous regardez la bourgeoisie, la noblesse stricto sensu parisienne, c'est fini. Hein. Les mecs avec des épaules d'un mètre qui vont faire la croisade pour le roi de France, c'est fini. Hein. C'est fini, hein. C'est vraiment terrible. C'est alors la noblesse locale, c'est pas pareil. La noblesse bretonne, la noblesse normande, la noblesse gasconne, ça c'est pas pareil. La noblesse de province, comme disent les Parisiens, ça n'a rien à voir. Mais la noblesse parisienne, moi je ne fais plus les soirées parce que tu arrives. Enfin, je ne le fais plus. J'en ai fait une ou deux. Hein. Puis j'ai vu et j'ai compris. Hein. Voilà, j'ai vu, j'ai compris. Hein. Si maintenant c'est finir sur CNews. Et en fait, tu as remplacé, tu as remplacé, si tu veux, Guillaume Desbarres et Bouchard de Marly et Guillaume le Conquérant par Antoine Sarkozy ou Guillaume Sarkozy, je ne sais plus comment il s'appelle. Jean-Baptiste Sarkozy, bon, j'en sais plus. Louis Sarkozy. Non, mais non, ça, c'est... Je suis con. Bon, bref. Si tu remplaces ça par le fils Sarkozy, si tu veux, il y a un énorme problème, en fait. Il y a un énorme problème. Et si vous voulez, ça fait des mecs vides, ça fait des mecs sans vécu, ça fait des mecs sans tripes, sans présence dans la voix. Enfin, c'est des mecs que Cyrano de Bergerac aurait clashé. Je vous rappelle que le début de la pièce de Cyrano de Bergerac, c'est quand même Cyrano qui arrive et qui interdit à un espèce d'acteur de faire sa pièce de théâtre dégueulasse devant un parterre de bourgeois. En fait, ça, il vient interrompre CNews. En fait, voilà, Cyrano de Bergerac, il déboule et il met des claques à tout le monde parce qu'il veut pas que ça soit CNews. Tu vois, et on est déjà... ça a été écrit au 19e siècle, mais on est déjà quand même 200 ans en arrière, et on a déjà... ça a été écrit au 19e siècle, ouais, c'est ça. Et on a déjà... on est 150 ans en arrière, on a déjà comme ça l'ombre de la... l'ombre de la du pervertissement, voilà. Et donc la pièce de Cyrano de Bergerac ne fait que raconter ça, elle ne fait que raconter la punition des faux, la punition des mecs qui n'ont pas de substance, et à quel point il est vital et à quel point sont vivants justement les hommes qui ont de la substance et qui du coup ne peuvent pas se plier aux moindres petites modes, aux moindres petites injonctions, excusez-moi, oui, injections aussi dans le cas du Covid. Mais vous voyez, c'est vraiment cette race là dont je vous ai parlé au début du podcast, elle est insupportable, en fait. Ce sont des mecs vides à l'intérieur, il n'y a plus aucun cap, il n'y a plus aucun rock, il n'y a plus aucun pic. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a plus rien, et ils sont profondément vides et malades et pleins de vices. Du coup, ils n'incarnent que des personnages sans s'incarner eux-mêmes. Et ça, c'est terrible. Donc, en fait, ils baisent comme dans les pornos dégénérés qu'ils consomment. Donc des trucs extrêmement violents dans lesquels on humilie la femme, parce qu'en fait, comme on a un petit chibre, pour se sentir vivre, il faut rabaisser la femme. Ils se griment en aventuriers sud-américains avec leur collier de lapis-lazuli, ou alors s'ils sont allés en Asie pour ouvrir un magasin de thé, tout d'un coup ils ont un collier en jade. Ouais, ça m'a été offert par un chef de village. Ta gueule, tu mens, tu l'as acheté sur Amazon, fils de pute. Aller dans une boutique où ils vendent de l'encens de népalais là, et des pantalons sherpa de fils de pute, de joueur de tambourin. T'as écouté du Danakil, t'es allé acheter du thé, t'as fait un voyage de fils de pute, un touriste tour quelque part, et tu t'es pris pour ce que tu n'es pas, c'est-à-dire un mec qui a de la substance. C'est abominable. Voilà, c'est abominable. Et vous êtes beaucoup trop à être dans ce cas-là à Paris, hein. C'est principalement. Mais il y en a aussi dans les centres-villes des autres grandes villes. Et en fait, c'est infernal. C'est infernal. Vous voyez, moi, je suis un médiéviste, hein, j'aime le Moyen-Âge, mais je n'ai absolument aucun respect pour cette néo-noblesse qui n'a plus rien à voir avec ses ancêtres, en fait. Vous voyez, si vous voulez, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu fais plus la guerre pour ton roi, et que c'était le seul truc qui faisait qu'on devait accepter que tu étais noble, il y a un énorme problème, en fait. Si être noble, c'est porter un nom à particules et faire des soirées de salopes à fumer du chichon avec Sarkozy, avec le fils Sarkozy et je sais pas qui de ces news là, c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer. Donc, reformons une véritable noblesse, même si on n'est pas noble. Reformons une véritable sociologie. Voilà, je suis très très content que dans mon public, il y ait des métalliers, il y ait des tailleurs de pierre, il y ait des poètes, il y ait des militaires, il y ait des flics, il y ait des paysans, il y ait des artisans, il y ait des éleveurs. Ça me régale, en fait. C'est la France que je veux voir. Voilà, c'est vraiment... Mais attention, il y a certains métiers du tertiaire qui sont géniaux, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même remettre à l'honneur tout ça. Et je suis très très content que dans mon public, les paysans soient surreprésentés et que le terroir en général soit surreprésenté. C'est vraiment la France que je souhaiterais revoir. Voilà. Donc vraiment, il faut punir ces personnages. Faut être impitoyable, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si vous croisez un espèce de blind Nicaragua, là, faut le... En fait, il y avait un côté, dans les années 90, où tu avais des rugbyman de 180 kilos qui profitaient de leur énorme inertie physique. Les mecs de Toulouse ont connu ça. Parce qu'en fait, à Toulouse, c'était une énorme ville de gauchistes de merde remplie de dégénérés. Et en même temps, tu avais quand même les rugbyman qui se baladaient parce qu'ils avaient été recrutés par le centre de formation de Toulouse. Donc, tu avais un petit peu la mise en perspective des rats qui sont habillés en Carhartt, là. Vous la connaissez, cette caste de petits Toulousains de merde que j'encule? Ils sont en Carhartt et leurs darons sont proches de la mairie et de Jean-Michel Baillet et de ces cercles-là, vous voyez. Leurs parents ont pignon sur rue, à la médiathèque de Toulouse, je sais pas quoi. Je pense que vous voyez cette race-là. Ça se balade en Carhartt, ça fait des soirées ensemble. C'est un petit monde de gauche, mais qui fonctionne comme... c'est un petit monde d'extrême-gauche, vous savez, qui fonctionne comme comme la noblesse de Louis XIV. C'est là où c'est génial. C'est de la caste, c'est de l'entre-soi. Vous voyez ce genre de fils de pute, hein? Ben, ceux-là, en fait, ils allaient dans les mêmes bars, parce qu'ils veulent vivre des trucs, vous voyez. Donc, ils vont à la couleur de la culotte, ils vont chez Tonton. Et ils veulent vivre des trucs et ils se retrouvent en soirée avec des fils de paysans qui ont des tout petits fronts avec des cheveux en avant et qui jouent pilier droit à... qui jouaient pilier droit à Béziers, tu vois. Et qui sont recrutés par l'école de formation du Stade Toulousain, tu vois. Et donc, ils se retrouvent en soirée avec ces mecs-là. Et là, c'est fabuleux. Là, c'est fabuleux parce que t'as des rugbymen qui font 180 kilos, que personne n'arrête parce que, en fait, la police les aime bien. Et c'est un peu moins le cas maintenant. Mais avant, ils avaient un peu tous les droits. Il y avait ce côté très médiéval à Toulouse où les rugbymen étaient un peu la nouvelle noblesse et ils avaient le droit de persécuter un peu les cerfs. Ils avaient le droit de persécuter ce qu'on appelait les chevreuils dans les années 90. Les chevreuils, c'était les mecs avec des gros nez, des tout petits corps qui avait des cheveux très longs, vous voyez. On appelait ça le chevreuil des mecs qui étaient des mecs qui étaient un peu ils étaient habillés en Volcom, tu vois. Ils étaient un peu skaters sur les bords, ça fumait du chichon et de temps en temps ils se retrouvaient dans la même soirée que les rugbymen. C'était très très drôle parce que les rugbymen les frappaient gratuitement, en fait. Les rugbymen les humiliaient et il y avait des oh Kiki. Et là le mec se figeait comme un petit cacatoès, tu vois, qui a été repéré par un prédateur. Le mec se figeait, il bougeait plus. Tu vois, il se disait putain, j'espère que l'énorme pilier droit avec une tête d'idiot à 80 QI ne m'a pas repéré, parce qu'il y a ça avec le rugbyman. Il y a le côté, il boit au comptoir en regardant autour de lui, il se rend compte qu'il va pas pouvoir pécho. Ça l'énerve que le fils de bourgeois parisien soit avec quatre meufs, donc au bout d'un moment, il va y avoir de la violence. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un paye deux trucs. Le fait que le rugbyman, le pilier droit, n'a pas forcément accès à la femme autant que le seconde ligne ou l'ailier, si tu veux. Donc au bout d'un moment, ça agace le pilier droit que les standards de beauté ne soient plus de faire 180 kilos de graille de muscles et d'avoir le nez cassé, vous voyez. Au bout d'un moment, il se fâche et il faut que quelqu'un paye. Et qui va payer? Ben, c'est les mecs qui sont dans des groupes de meufs. Donc en fait, les rats habillés en Volcom, Carhartt et avec des t-shirts Dickies, tu vois. Le néo-urbain skater, si tu veux. Donc là, il boit, puis une fois qu'il commence à être bien sous, oh Kiki! Et là, si tu veux, t'as un mec qui se fige. Oh putain, Dodo, j'ai cru que t'étais une femme. Tous les gens qui ont vécu à Toulouse ont connu des situations. C'est le rugbyman sous qui commence à te dire des trucs qui font que normalement tu dois lui en péter une. Le problème, c'est que le mec fait 180 kilos, 1m90. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a le... Là, le mec se tourne, il fait... Là, il y a la tentative de rigoler à la blague qui, normalement, aurait dû valoir un défi. Tu vois. Donc là, si tu réponds de manière agressive, tu ne peux pas le faire parce que tu vas te faire éclater. Si tu réponds pas, t'es un PD, le mec va continuer à te chercher la merde. Voilà, c'est très, très compliqué à gérer. Donc là, la blinde Nicaragua est très très loin, tu vois. Là, les relations de tes parents avec Jean-Michel Baillet et le conseil général de Toulouse ne servent à rien, si tu veux. Ça, ce sera après, ce sera quand tu iras au poste hein, et que y aura des coups de fil parce qu'en fait, ton père est juge, donc il a relâché 48 fois un migrant afghan qui avait violé, tu vois. Donc ça, il l'a relâché 48 fois. Par contre, t'as pris une tarte dans la gueule par un rugbyman parce que t'avais une tête insupportable. Et là, évidemment, le mec va être convoqué immédiatement et va y avoir... Là, la justice va aller très très vite et la peine sera très très sévère. Voilà, parce que c'est vrai que quand on passe des coups de fil à la loge... Après, ce qu'il y a de très drôle, c'est que si ce rugbyman joue dans la une du Stade Toulousain, il y aura loge contre loge, si vous voulez. C'est-à-dire que le rugby de loge va essayer de trouver un terrain de négociation avec le père de la victime qui est juge et qui lui aussi est dans la loge, si vous voulez. Parce que le Stade Toulousain est un troisième pouvoir à Toulouse. Donc il y a un petit peu, il y a un petit côté comme ça aussi. C'est assez drôle. C'est un peu Game of Thrones. C'est-à-dire que vous savez, il y a une espèce de trio entre le juif toulousain qui a quand même pignon sur rue, qui en général est un juif marocain. Vous avez ensuite le fils de grand bourgeois toulousain qui est lié à la famille Baillet ou la famille Baudis, voyez. Donc là, il y a du pouvoir. Et ensuite, vous avez le mec qui est un roturier, mais qui est important dans le tissu toulousain parce que il est, je sais pas quoi, chez Airbus ou je sais pas quoi, dans le Stade toulousain. Là, c'est un peu les triangulations toulousaines, vous voyez. Après, il y a un quatrième outsider qu'on n'a pas vu arriver, qui est venu dans les années 80. C'est l'arabe bourgeois qui a des connexions avec tomber la chemise, là, vous voyez. Il y a ça aussi. Donc tout ça forme un petit quatuor qui se partage un petit peu le gâteau toulousain. Vous voyez, c'est un peu les quatre équipes qui se partagent le gâteau bien juteux de Toulouse. Vous voyez, donc les vieilles familles toulousaines avec des histoires de pédophilie, les rugbyman du Stade Toulousain. On va mettre Airbus et le Stade Toulousain dans le même truc. Vous voyez, qui peut un peu consacrer, comme qui peut faire d'un outsider un seigneur, et ensuite vous avez évidemment la communauté juive de Toulouse qui est un maillon comme ça très soudé. Donc vous avez un peu ces quatre. Voilà. Donc il arrive des fois que l'un d'entre eux tape. Par exemple, le rugbyman va taper un mec d'Airbus. Donc là, il va y avoir une négociation. C'est resté le Moyen-Âge, en fait, Toulouse. Il y a quatre grandes familles qui doivent un petit peu comme ça négocier entre elles de temps en temps. Après, si un roturier ou un arabe de banlieue se font taper, par exemple, si un juif de la grande bourgeoisie juive marocaine de Toulouse écrase quelqu'un en voiture et que ce quelqu'un n'était ni un rugbyman, ni un membre de la famille Baillet ou Baudis, ni un rugbyman important, ça devrait pouvoir se négocier. Si un rugbyman très connu du Stade Toulousain, bon, met une claque à une fille dans un hôtel et la viole à moitié, si vous voulez, bon, ça va passer. Si la meuf n'est pas une connaissance du groupe Zebda, si vous voulez, voilà. Ça, c'est un petit peu les magouilles de Toulouse, mais ça existe dans toutes les villes. Je pense qu'à Grenoble, Lyon, il doit y avoir un peu le même truc, il doit y avoir un peu les mêmes tissus, vous voyez. Après, ce qu'il y a de très drôle à Toulouse, c'est que tous ces tissus-là sont profondément liés à un esprit de gauche, hein, ou un esprit, en tout cas, de franc-maçon, qui normalement devait être une rupture avec la royauté. Et en fait, ils recréent des petits cercles d'influence. Voilà. Donc, ils sont assez drôles pour ça. Voilà. Bon, chers amis, je vous laisse. C'est la fin de ce petit podcast. Il n'y en aura pas le week-end prochain parce que, tout simplement, une vidéo avec le Raptor devrait sortir, puisque nous allons enregistrer une vidéo, donc ça devrait sortir. Donc nous n'aurons, chers amis, vous n'aurez pas de podcast la semaine prochaine. Il vous faudra attendre encore 2 semaines, parce que de toute façon je serai en déplacement, donc je n'aurai pas le matériel pour enregistrer le podcast. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, ce que je veux que vous reteniez de ce podcast, c'est d'incarner, d'être des humains qui incarnent et d'arrêter d'être de fausses expressions de la vie, d'être de véritables expressions de la vie, d'être des expressions de la vie consommées, vécues, expertisées par le temps, par la récurrence, par la volonté et non pas par le mimétisme et le déguisement. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour toute votre bienveillance et je vous dis à très bientôt.